Et là, schizophrénie, c'est-à-dire déchirement. Le chrétien, il voit la bonne nouvelle et tout d'un coup, il se dit, mais la bonne nouvelle, c'est pour me remettre au pied du Sinaï. C'est-à-dire qu'il il construit son discours dans l'abstraction, et puis petit à petit, il va venir dans la pratique. Et comme il sait que dans la pratique, il y a un problème, un vrai problème qui se pose, il se dit, de toute façon, j'ai un joker. J'ai un joker dans ma théologie, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, bon, comme tu n'as pas les mitzvot et les lois, et le calendrier des lois du Shabbat, des fêtes du tabernacle, etc., ben, j'ai un joker, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va t'aider à faire en sorte que la loi n'est pas le moyen, la justification, ok, mais ça doit être la conséquence. La loi doit être la conséquence de ta justification gracieuse. Et comment Dieu a pourvu à ça ? Ben, il a pourvu comme il a pourvu avec le Christ, il t'a offert gracieusement le salut, et ben, il pourvoit à la mise en pratique de cette justification en te donnant l'esprit. Donc si tu ne pratiques pas cette justification dans les faits, c'est que tu n'as pas reçu Saint-Esprit. Mmh. Si tu n'as pas reçu Saint-Esprit, c'est qu'en fait, le Christ, il n'a pas payé pour toi. Ta conversion, c'est un leurre. Tu es un tricheur.
Oui, il y a eu...
Donc tu es toujours sous la colère de Dieu.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
tu n'es pas bien converti.
Oui, mais... Donc, on revient au point de départ. On dit, bah, oui, mais bah, le fardeau, il est impossible. Parce que moi, je fais tous mes efforts. Mais... Donc, le chrétien qui est sincère et qui sort de difficultés énormes, bah, je ne sais pas moi, qui sort éventuellement d'une vie complètement dissolue ou qui n'a pas du tout été élevé dans...
Dans une conscience morale.
Oui, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et à un moment donné, bah, il va se dire, mais je suis trahi. Au commencement, on m'a dit, la foi seule. Et on m'a dit, tu n'as pas besoin de pratiquer la loi. Et on me dit maintenant, il faut que les conséquences de cette justification gracieuse, ce soit la loi.
Soit au même niveau.
Oui. C'est-à-dire que la loi n'est pas le moyen, mais c'est les conséquences. Ouais. Il se dit, mais je suis trahi. Et il va se retourner contre le Christ. Il va se dire, mais le Christ est vendu à Moïse.
Il va se plonger dans la loi. Et ouais. Il va essayer d'être à l'image, non pas de Christ, mais de Paul. C'est-à-dire d'essayer de concilier les deux, d'avoir un petit peu de pragmatisme, un peu de Saint-Esprit, un peu de lâcher prise.
Voilà. C'est une nature divine. C'est une nature, justement, tout ce que je sais sur cette nature, c'est que mon ignorance est immense. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut dire au soleil, bon, bah, écoute, aujourd'hui, tu vas me donner une journée qui dure une semaine. Je ne comprends pas cette nature. Je ne comprends pas comment je peux ordonner à la réalité. Je ne sais pas.
D'accord.
J'y crois. J'y crois. Je crois à quelque chose d'absurde.
En tout cas, ce n'est pas une nature conforme aux lois.
C'est une nature anti-loi. C'est une nature qui dit à la loi, maintenant, tu vas à l'arrière de moi. Tu reviens à ta position normale de valet. Donc, cette nature-là, je l'aime. Elle me passionne. Elle me surprend. J'en ai quelque part, pas peur dans le sens négatif du terme, mais je sais que tout ce que je vais dire sur cette nature, la plupart du temps, je vais tomber à côté de ce qui est. Je ne comprends pas qui est Dieu. Et je pense que commencer à être dans cette nature, c'est commencer à avoir cette attitude, dire bon, la mise en pratique, elle va venir après. Là, je suis dans... J'ai confiance qu'un jour, elle va m'être donnée. On parle de justice du royaume des cieux et de justice de la loi, mais en fait, le terme justice est déjà mal approprié. C'est plutôt de nature dont il faudrait parler.
Mmh, d'accord.
Quand on parle de justice du royaume des cieux ou de justice de la loi, c'est en fait de nature dont on parle.
En conséquence, pour Paul, la mise en pratique de cette nature, donc du salut, peut commencer ici-bas.
Oui, comme dans le judaïsme, puisque c'est un problème d'obéissance à une justice qui est logique, vertueuse. Elle peut être mise en pratique ici-bas. Le salut peut être mis en pratique ici-bas. Et si, comme l'auteur de la Genèse 3, le problème du salut, c'est un problème d'une transformation de nature. C'est-à-dire qu'il faut manger le fruit d'un autre arbre. Il faut recevoir une autre nature. Ben dans ce cas, c'est pas possible ici-bas. Ou alors, le commencement de la mise en pratique de ce salut-là, de cette justice-là, qui est la justice de l'insoumission, C'est-à-dire Dieu est insoumis, c'est l'insoumis, et ses fils sont des insoumis, c'est leur volonté qui règne dans leur réalité. Cette nouvelle nature-là, ici-bas, elle est, comme dit Kierkegaard, incognito, elle est cachée. Et là encore, ben, voilà, Paul a des intuitions, il a des inspirations, il dit, voilà, vous êtes caché en Christ. Bon, il est sans arrêt en train de danser sur deux champs, et il n'arrive pas à larguer définitivement ce vieux champ de la loi. Mais comme il a inspiré d'un autre côté, il verrouille tout, quoi. Il cadenasse tout. Et si on n'est pas très armé pour finir le travail qu'il n'a pas réussi à finir, on se trouve coincé dans la même prison dans laquelle, lui, il a fini par être coincé.
On ne peut pas répliquer.
Ben oui. L'évangile est une utopie. La mise en pratique, c'est une mise en pratique qui commence à la résurrection. Ici-bas, elle est cachée. Et même pire, ici-bas, la mise en pratique de cette nature à venir, elle a ici-bas l'apparence de l'échec, la plupart du temps. C'est exactement le Christ. Ouais, t'es en échec. Si Dieu est avec toi, bah, qu'il descende de la croix, bah non, il ne descendra pas. Parce que la mise en pratique de la réalité vers laquelle il veut nous conduire, c'est la résurrection. Donc ici-bas, c'est la bonne...
C'est la mort.
Oui, c'est la mort et la résurrection. Donc c'est une bonne nouvelle pour le chrétien. C'est parce que ici-bas, bah, écoute, on ne te demande pas de mettre en pratique une justice qui est une justice que tu ne mérites pas, que tu ne peux pas mériter, que tu ne peux pas acquérir, qui t'est donnée et qui va t'être donnée par une main puissante à la résurrection. Ici-bas, la mise en pratique, c'est bah, tu fais confiance à cette nature qui t'est promise, tu fais confiance qu'un jour elle va t'être revêtue. Et la mise en pratique de la réalité chrétienne ici, c'est de cultiver cette relation invisible et cachée, incognito, c'est-à-dire de faire croître cette nature cachée qui est là-haut, qui sera révélée là-haut. Ce trésor où la teigne et où la rouille ne vient pas, ce trésor, c'est pas que tu vas être récompensé de tes œuvres. Ce trésor, c'est toi. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas arriver dans la résurrection, tu auras déjà 100 ans, ou est-ce que tu vas arriver, tu vas être un enfant qui vient juste sortir, qui hurle. Ce trésor, c'est ça, c'est cette nature cachée qui, d'un coup, va se retrouver devant des êtres qui vont être d'une maturité spirituelle, alors qu'ici-bas, ils paraissaient en échec, quoi. Alors d'après Paul, la faute d'Adam, c'est d'avoir désobéi. Alors si on prend Genèse 2, on va voir, je suis désolé, mais Paul, nous aussi on a le texte, hein, et nous aussi on a une tête. Hein. Alors ta rhétorique, elle est jolie, elle est très professorale, très mathématique, effectivement, mais on a nous aussi le chapitre 2 et 3 de la Genèse sous les yeux, donc on peut voir si la faute d'Adam, c'était la désobéissance. Moi, une fois, j'ai accueilli des témoins de Jéhovah pour discuter avec eux, et c'est ce qu'ils me disaient aussi. Il disait Genèse 3, la faute, c'était la désobéissance. Il disait comme Paul. On discutait un peu, mais ils ont rien voulu comprendre, évidemment. Alors voilà, bon, grosso modo, Dieu les met en Éden, Adam et Ève, et il leur dit, voilà, il y a plein d'arbres, tu peux manger tous les arbres. C'est ce qu'il dit au départ. Puis après, il dit, non, mais voilà, au centre, il y a l'arbre de vie, puis là, il y a l'arbre de la connaissance, celui-là, tu ne le manges pas. Dieu disparaît. Pendant ce temps, Adam et Ève, ils mangent de cet arbre. Résultat de l'histoire, la faute, c'était la désobéissance. Voilà, ils n'ont pas obéi. Dieu leur a dit, tu touches pas à cet arbre, ils n'ont pas obéi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dit l'auteur. Donc moi, quand je lis ça, je dis, bon, j'ai de trois choses l'une. Soit on me prend pour un con, soit toi, t'es un con, soit Dieu est un con. Parce que, c'est pas... D'abord, il dit, bon, tu peux manger tout. On va essayer de se placer à la place du narrateur, du personnage qui a écrit ce texte, et d'embellir ce qu'il écrit. Alors un roi, enfin un empereur, qui a un immense territoire, décide de marier son fils avec une femme qui est aussi d'une lignée royale. Tout le monde s'attend à ce que, effectivement, les noces aient lieu dans la capitale de l'Empire. Et puis le roi annonce que les noces n'auront pas lieu dans la capitale de l'Empire. Il emmène tout le monde dans un voyage extrêmement long, dans un pays lointain qui fait partie de son empire. Et là, au milieu d'une terre magnifique, richement arrosée, verdoyante, enfin parfaite quoi, comme terre, qui fait partie de son empire. Il fait découvrir à tous les convives un magnifique château, une magnifique demeure. C'est le cadeau de noces qu'il va offrir à son fils et à sa femme, qui est elle aussi de lignée royale. Puis il les fait rentrer dans l'immense château, puis il leur dit, voyez, au centre de ce château, il y a une tour, qui est le centre. En haut de cette tour, j'ai mis un serviteur, et ce serviteur, il va vous apprendre à être les rois de ce pays que je vous donne, parce que je vous donne un pays, je vous donne une réalité. Mm-hmm. C'est ça l'Éden.
Un univers. Ouais.
Je vous donne une réalité à gérer. D'accord. Vous allez être les rois. Et vous allez gérer la nature, la création, les créatures. Donc, au milieu de votre demeure, j'ai disposé d'un serviteur que j'appelle la vie. Et il va vous apprendre à faire en sorte que ce pays prospère de vie. Et quand vous aurez appris de lui, il disparaîtra. Ce serviteur disparaîtra. C'est-à-dire quand il vous aura communiqué suffisamment de maturité, donc quand ce serviteur aura communiqué suffisamment de maturité à vos personnalités, de sorte que vous soyez totalement autonome et que vous puissiez gérer votre pays, ouais. Bah, il disparaîtra. Vous serez le centre, vous serez le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga de ce pays. Voilà. Donc vous pouvez vous nourrir de tout, vous êtes les rois ici. Et puis les noces ont lieu, puis tout le monde va partir. Et puis au moment de partir, le roi, y a un détail.
L'empereur.
Oui, l'empereur. Au moment de partir, il y a un détail à son fils, à l'épouse de son fils. Il y a un détail. Là-bas, tout au fond de votre domaine, il y a la demeure d'un valet qui a entre ses mains les mystères de la connaissance intellectuelle, du bien et du mal. C'est un puissant serviteur aussi. Et là, je vous interdis d'être nourri de son enseignement. Mmh. Enfin, c'est même pas qu'il leur dit « je vous interdis », mais il leur dit plutôt...
Il les met en garde.
Si vous vous nourrissez de son enseignement, il va y avoir une malédiction sur votre pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la prospérité de la vie, mais il y a une malédiction qui va s'abattre. Un mouvement mortuaire va venir, comme une ombre maligne, couvrir votre pays. Et puis il s'en va. Évidemment, une fois qu'il est parti, la première chose qu'ils font, le jeune couple, c'est d'aller voir le serviteur. Le serviteur, c'est le Satan. Hein ? Mm-hmm. Le Satan, c'est celui qui dit la vérité. La vérité mathématique. C'est-à-dire qu'il a les mystères de la connaissance logique, mm-hmm, de la raison. C'est l'arbre de la connaissance, de la science, du bien et du mal. Donc quand il dit 2 et 2 font 4,
il a raison.
Ça ne fait pas 5. Et mm-hmm, quand il dit tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, il dit la vérité.
Il a littéralement raison, c'est-à-dire qu'il possède la raison.
Voilà. Et ils y vont, évidemment. Parce que le discours du serviteur qui, lui, leur apprend comment gérer leur pays avec le processus de la vie, ce n'est pas un processus logique. C'est un processus qui ne peut pas être compris logiquement, comme ce que je viens de lire de Kierkegaard. Ça reste un mystère au sens de la raison. Alors évidemment, pour le jeune couple, moi je veux du tout de suite et maintenant. Je veux de l'immédiateté. J'ai un pays, j'ai une magnifique femme, tout roule, tout baigne. Non, mais moi, je veux que ça claque dans mes doigts. Et je
tu veux la... dire qu'ils sont attirés par le fait de le faire eux-mêmes avec une connaissance qu'ils peuvent manipuler. Mmh. Pourquoi aller vers ce valet alors qu'ils ont un serviteur qui leur donne la possibilité d'être des êtres vivifiants et de faire vivre leur domaine, leur univers? Pourquoi aller vers ce valet qui leur donnerait la malédiction? Est-ce qu'il y a une raison
oui, alors pourquoi ?
Ontologique ? Est-ce que c'est bon, parce qu'ils ont la même nature ?
Alors, avant de répondre à ta question, c'est à peu près ce que dit le narrateur dans Genèse. Donc, c'est-à-dire quand Paul ou le témoin de Jéhovah, il vient et qui me dit, bon, le péché, c'est qu'ils n'ont pas obéi. Je dis, attends, c'est un peu gros ce que tu dis, parce que le narrateur, il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, si tu te nourris de cet arbre, tu vas mourir. A priori, le problème... c'est de se nourrir de cet arbre.
Oui.
Et toi, tu es en train de me dire, le problème, c'est de ne pas avoir obéi. Donc, tu es en train de me dire que Dieu est un salaud. Et c'est ça que tu es en train de me dire. Ou alors, tu es en train de me dire que je suis un con. Parce que tu es en train de me dire, papa, maman sont partis, ils ont laissé une boîte avec des chocolats dedans, et les gosses qui ont 12 ans...
Du poison, pas du chocolat.
Oui, mais ça a une apparence de chocolat.
Donc, avec des fruits empoisonnés, des bonbons empoisonnés.
Mais le fruit est beau. Il est logique, d'accord, il est prestigieux,
oui,
la raison, avoir, la raison est lumineuse. Puis papa, maman, ils partent, ils disent, bon, je laisse la boîte là, mais tu ne dois pas y toucher. Hein.
Oui, bien en vue.
Mais il sait très bien que le gosse, il va y toucher. Donc tu es en train de me dire que Dieu est un salaud.
Un hypocrite.
Non, c'est un salaud. Je veux dire, quelqu'un qui te fait ça, ce n'est pas un hypocrite. C'est vraiment un salaud. Je suis désolé d'utiliser un mot comme celui-là, mais c'est dégueulasse. Je veux dire, c'est dégueulasse. Je veux dire, tu tiens ce discours théologique à un athée, mais il va vomir le texte. Mais moi, je comprends qu'il vomit le texte. Il dit, mais attends, mais t'as vu quel visage de Dieu t'es en train de me dépeindre ? C'est-à-dire qu'il a induit une tentation. Il a même mis un serviteur là-dedans, qui est 100 fois plus puissant que ses gosses, et qui va les séduire en un coup de cuillère à peau. Mmh. Ils vont tomber. Donc, comme on ne peut pas croire que Dieu est un salaud, on est obligé d'évacuer ça. Donc, il se passe autre chose. Il faut comprendre le texte autrement. Bah, ce qui se passe, c'est que la faute d'Adam, ce n'est pas la désobéissance. Évidemment, d'un point de vue littéral, c'est-à-dire que si on prend le texte comme un enfant de maternelle, Dieu a dit bah, « tu ne mangeras pas de cet arbre », l'autre, il en mange. Bon, il n'a pas obéi. Mais non, le problème de la lecture de ce texte tel que l'a fait Paul, c'est qu'il veut nous entraîner dans l'idée que cet événement, c'est un événement qui s'est passé historiquement. Quand tu parles de cette géométrie parallèle entre le premier Adam et le second Adam, le Christ a existé réellement, de chair et d'os. Il est venu, il y a vraiment eu une mise à mort. Donc il faut qu'Adam, physiquement, existe aussi.
Ouais.
Et qu'il ait vraiment fait cet acte.
Oui.
Mais ce texte, il n'a pas existé historiquement. Adam n'a pas existé historiquement. Le narrateur de ce texte, il est en train de construire une allégorie. Mmh. Il est en train d'expliquer quelque chose. Et il faut tout traduire selon l'allégorie. Les arbres et les fruits, c'est des nourritures. Quand tu te nourris de quelque chose, tu l'ingurgites et t'es transformé.
Ouais.
Comment tu vas gérer ta réalité? Comment tu vas comprendre ta réalité? Comment tu vas comprendre le monde? Bah, tu vas le comprendre au travers du prisme de la raison. Tu vas dire, ce qui gère la réalité, ce qui gère le monde, ce sont des lois logiques et raisonnables. Ce n'est pas un mouvement existentiel d'un être existentiel qui fait selon sa volonté sans rendre de compte à des lois.
Oui, donc l'allégorie de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, représente les connaissances qui gèrent la réalité.
C'est-à-dire que le roi qui marie, enfin l'empereur qui marie son fils et sa fille, il est en train de dire, le pays que je te donne, tu ne vas pas le gérer par la raison. Tu ne vas pas gérer l'existence qui existe, les arbres, la nature. Tu ne vas pas gérer ton monde, ta réalité, ta vie. Tu ne vas pas la gérer en te justifiant aux lois du bien et du mal, de la logique.
Ouais.
Tu dois comprendre que le système de ce pays, il fonctionne autrement. Il va être dominé par une autre justice que la justice du bien et du mal.
Tu veux dire que dès le départ, l'auteur de Genèse, il a un message existentiel?
Ben évidemment. Puisque au milieu, il y a l'arbre de vie.
Il porte déjà un message existentiel, l'auteur de Genèse.
Oui. Et ensuite, il dit, lorsque on voit Ève parler avec le serpent, elle dit, ben, l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il est en train de dire, mais le problème de l'humanité, c'est qu'elle a mis au centre de la vie et de sa réalité l'idée que tout est géré, organisé et dominé par des lois logiques et raisonnables.
D'accord, d'accord.
Et non pas par les lois existentielles de ce que lui, il appelle la vie, l'arbre de vie, la volonté de l'être.
Oui, oui, oui.
La volonté de l'être qui ne rend pas de compte à la raison. Et donc, il est en train de dire au commencement, l'homme qui est innocent, il est invité à comprendre que la réalité fonctionne comme ça, comme Dieu. C'est-à-dire que la réalité obéit au vouloir de Dieu et qu'à chaque fois que Dieu exprime son vouloir, la réalité obéit. Et qu'à l'arrière de cette réalité, les lois, ben, elles doivent se caler. C'est-à-dire que si Dieu veut que 2 et 2 fassent 5, ben, la loi elle va faire en sorte que 2 et 2 fassent 5.
D'accord. Et donc l'homme a mis au centre et a fait passer en première position les lois logiques.
Voilà. Donc là, on a un discours de Paul. Il fait une exégèse de Genèse 2 et 3. Que tout le christianisme a repris. Donc, on a dit, c'est historiquement vrai. C'est-à-dire qu'Adam a vraiment existé, Ève a vraiment existé. D'ailleurs, c'est de sa faute à Ève, hein, donc, d'où la femme, etc. Il a existé comme le Christ a existé. Donc, il fallait que par une première faute, c'est-à-dire que, en fait, bon, bah, si toi, t'es tombé, c'est parce qu'il y en a un premier qui est tombé et il t'a entraîné.
Oui, c'est le premier domino.
Voilà. Et tout le monde dit Alléluia. Et personne ne va remettre ça en question pendant 2000 ans, quoi. Le judaïsme n'est pas du tout d'accord là-dessus. Il n'y a pas de péché originel. Il faut le comprendre autrement, le texte. Et donc, Paul construit son alambic. Et cette fois, il n'est plus avec Abraham. Abraham a eu la foi, il était dans la grâce, il est venu avant Moïse. Donc, vous voyez, donc là, ça se tient. Mais là, du coup, comme il essaie d'aller plus loin, comme il essaie d'être encore plus efficace dans cette couture qu'il va faire de la loi et de la grâce, il va carrément dans un texte qui est d'une inspiration remarquable. Et là, il tord complètement le texte. Il le saccage. Ouais. Il saccage ce texte. Et il fait passer Dieu pour un salaud. Il fait passer celui qui dit, bah non, le péché, c'est pas la désobéissance. Bah, il lui dit, bah non, t'es un con. Tu comprends pas que... Non, bah non, je suis pas un con. C'est allégorique. Et c'est peut-être toi qui es con. En disant que le péché, c'est la désobéissance. Tu vois pas que ça s'est pas passé historiquement? Tu vois pas que le narrateur, il parle d'un arbre de vie, d'un arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu vois pas qu'après, il leur donne un vêtement de peau et qu'ils sont chassés de l'Éden et que là commence l'histoire? C'est-à-dire qu'il leur donne un corps? Tu vois pas tout ça? Tu vois pas qu'il y a une allégorie qu'il faut creuser, qu'il faut peut-être s'attarder pendant... Peut-être tu vas bosser 10 ans sur ce texte, 15 ans, 20 ans de ta vie, avant de comprendre ce que l'auteur est en train de dire. Il est en train de dire un mystère. Et ce mystère ne peut pas être compris logiquement. Tu ne peux pas ramener ce mystère en disant bah, « Il y a un premier Adam, un second Adam, tac, lui, le premier péché est arrivé, universalité du péché, le Christ est venu, second Adam. » Donc, c'est qui le Christ alors? Bah, c'est un Adam qui a réussi. Donc, c'est un Adam angélique. Ça veut dire qu'il a une nature qui obéit tout le temps. C'est-à-dire que la justice de Dieu, pour Paul... Le problème du péché, c'est le problème de l'obéissance pour Paul. C'est-à-dire que le péché d'Adam, c'est d'avoir désobéi. C'est pas d'avoir mangé de l'arbre.
Ouais.
L'arbre, on s'en fout. Ça aurait pu être une boîte de chocolat, ça aurait pu être, je sais pas moi, une belle nana, tu la touches pas. Hein? Ou, je sais pas, un beau mec, l'homosexualité. Je veux dire, tu vois, c'est n'importe quoi, on s'en fout. Le problème, c'est qu'il fallait trouver un truc qui soit bien séduisant pour montrer que l'autre, ben, il obéit pas. Ah, tu vois, t'as pas obéi. J'ai eu le dos tourné, t'as pas obéi. Je t'ai mis à l'épreuve, t'as pas obéi. Donc, le problème, c'est l'obéissance. Et le problème du rapport avec la justice de Dieu, c'est l'obéissance. J'obéis pas au précepte de la loi du bien et du mal. C'est-à-dire que, bizarrement, lorsque tu commences à dire, dans ce texte de Genèse, le péché, c'est la désobéissance, ben, t'es en train de dire exactement ce que dit le serpent. T'es en train de dire ce que dit le serpent. T'es en train de dire, bah, tu vois, si tu veux être comme Dieu, il faut que t'obéisses aux lois du bien et du mal. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Il rend compte à la justice du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il me rend compte à moi.
Oui, donc Dieu est d'accord avec le serpent.
Bah oui, puisqu'il l'a mis là d'ailleurs dans l'Éden. Alors que le narrateur dit non, le problème, c'est pas un problème d'obéissance. Il y a eu un conseil de Dieu, effectivement. Et ce conseil, l'homme l'a pas suivi. Mais c'est pas parce qu'il a pas suivi le conseil qu'il a été entraîné dans un processus mortifère, etc., qu'il a reçu un vêtement de peau, c'est-à-dire un corps charnel, et non pas un corps spirituel. C'est pas parce qu'il n'a pas obéi, c'est parce qu'il a mangé du fruit de cet arbre.
Et le fruit de cet arbre a transformé sa nature.
C'est-à-dire qu'il est allé au niveau de la gestion de la réalité telle que peut le comprendre une loi mathématique. Bah, comme les scientifiques, ils suivent les recherches de leurs prédécesseurs, et puis bah, ils vont prendre ce qu'ont découvert leurs prédécesseurs, puis ils vont dire oui, mais là, il s'est planté. Donc ils prennent que ce qui était bon, et puis ils continuent l'œuvre. Bah, nous, c'est ce qu'on fait. On dit, Paul, merci pour ce que tu as fait, mais là, je suis désolé, moi, je vais larguer les amarres. Tu n'as pas réussi à le faire, mais je comprends au point où tu en étais. C'est ça la beauté du texte biblique, c'est-à-dire qu'un texte qui est inspiré, c'est un texte qui laisse la place à l'homme. Alors qu'un texte qui est tombé du ciel, c'est un texte qui ne laisse pas la place à l'homme. C'est un texte mathématique. Tu prends le cursus mathématique, voilà, bon ben, à l'école, les enfants, ils reçoivent plein de livres tombés du ciel. Il y a des lois mathématiques, il y a des lois de la grammaire, tu les apprends par cœur et tu te la fermes. C'est comme ça, c'est pas autrement. On ne te demande pas de discuter. Tu ne vas pas refaire la loi de l'accord du participe passé. Tu ne vas pas refaire les lois qui régissent les angles d'un triangle. Tu acceptes, c'est tombé du ciel, c'est une loi vraie, c'est la vérité. C'est les lois de la vérité, c'est les lois du bien et du mal. Mais là, on a affaire à la révélation de Dieu, et Dieu veut dire à l'homme, ce que je veux, c'est que ce soit toi qui sois la loi. Je veux que toi, tu sois la vérité. C'est-à-dire que ta volonté soit la vérité. Dans tous ces mouvements changeants, elle se justifie à rien. Moi, je me justifie devant rien. Donc, ta volonté va se justifier devant rien. Donc, ma révélation que je veux te communiquer, ma nature que je veux te communiquer, eh bien, tu la cherches, tu tâtonnes, tu découvres, tu t'égares, tu reviens. Et puis tout le monde passe par le même processus. Paul, Matthieu, Luc, Jean. Alors, si tu veux pas larguer les amarres de la loi, bah, judaïse, vraiment. Tu vas auprès de Léon Ashkenazi, tu vas auprès d'André Néer, de Lévinas, tu apprends l'hébreu, tu pratiques les mitzvot, tu fais ton shabbat, etc., etc. Tu portes la kippa, et puis voilà. Et c'est clair, c'est net. Mais si tu commences à mêler le Christ, là, tu rentres dans quelque chose qui est machiavélique. C'est machiavélique parce que tu fabriques un Christ. Tu fabriques un Christ qui va être moulé dans la loi. Et là, c'est grave. Bon, si tu dis la vérité, c'est la loi. Bon, à la limite, d'un point de vue pragmatique et logique, c'est vrai. La vérité, c'est la loi.
Mais si tu dis le Christ, c'est la loi.
Ouais, là, tu as un problème.
Bah, tu dis le contraire de ce qu'il est.
Disons que la subversion du Christ, elle commence là. Elle commence par la volonté à tout prix de marier l'utopie qui est le Christ à une réalité pragmatique. Et c'est vrai que c'est très, très, très difficile de vivre 20, 30, 40, 50 ans de sa vie si on a foi au Christ et de se dire ben, les fruits de la passion que j'ai pour lui, de ce désir de rechercher qui est Dieu, les fruits, je ne les verrai jamais vraiment ici-bas. Ils seront toujours cachés. Mmh. Et je serai même tout le temps en porte-à-faux parce qu'on me dira ben, porte du fruit. Je dirai ben, je suis désolé. Le fruit que je vais porter, c'est après. Je vis dans les ténèbres de la foi. Le seul fruit qui est inaccessible à celui qui fait ce parcours de l'utopie de Christ, il y en a un. Il y en a un de fruit, concrètement, physiquement, qu'on acquiert et qui est impossible d'acquérir autrement. C'est ce qu'on appelle la paix. Mais je ne parle pas de paix dans le sens j'ai la paix, c'est-à-dire que je n'ai plus de problèmes. Je n'ai plus de problèmes financiers, je n'ai plus de problèmes médicaux, je n'ai plus de problèmes relationnels. Non. Quand je parle de paix, je parle de paix de la conscience. Si tu largues les amarres avec la justice de la loi, tu as tellement largué les amarres que ce que tu veux est ta liberté, tu es en paix. Tu sais que tu es en construction, tu sais que tu es en recherche, et tu sais que tu n'as pas à rendre compte. Et cette paix-là de la conscience, c'est ce moment-là où le gardien qui est là et qui veille à ce que la justice de la loi soit pratiquée, ce gardien avec l'épée.
Le gardien de la raison.
Et l'épée de feu qui garde
la conscience.
Voilà, dans l'allégorie d'Éden, c'est le gardien qui est à l'entrée de l'Éden. C'est ce gardien qui est inséré dans l'intériorité de l'homme, dans l'être de chaque homme. À partir du moment où tu n'es pas un animal, et moins tu es un animal, plus cette prise de conscience logique, tu l'as, et elle te culpabilise, ou elle te récompense. Cette rencontre avec le Christ, dans le sens où tu coupes les amarres avec cette justice-là, elle te fait rentrer dans une paix où ce gardien, il est viré. C'est-à-dire que la réalité peut encore te dire, bon, tu ne passeras pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas marcher sur l'eau, ok, d'accord, mais à l'intérieur, il ne peut plus rentrer. C'est-à-dire que non, je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Et je ne dois rien.
Je ne suis pas Adam chassé de l'Éden.
Et d'ailleurs, je ne vais pas retourner en Éden. Parce qu'en Éden, il y a encore la possibilité de manger... Non.
De l'arbre
du fruit. Les deux arbres. L'un des deux arbres. Je vais dans le monde à venir, le royaume des cieux, c'est ce monde-là où les lois de la connaissance du bien et du mal, elles sont vraiment en bas. Elles retrouvent leur place en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un jeune homme qui est là. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de confiance pour décrypter la vie par la foi? Ou est-ce qu'il va falloir qu'il passe par le creuset de la loi? Non, c'est fini. Il rentre dans la maturité, il vit pleinement. Il est de la vie, il est de l'arbre de vie, quoi, en quelque sorte. Il est devenu un homme mûr et les lois de la réalité logique, elles sont en dessous, elles obéissent comme des serviteurs qu'elles sont. Et donc cette paix-là, je dirais que d'un point de vue pratique, c'est pratiquement le seul discours pragmatique. D'ailleurs, le Christ l'a dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de... Oui, je ne vous donne pas la paix. Ouais, tu vas vivre dans un château et tu vas être en paix avec tout le monde. C'est-à-dire que tu vas être... Comme c'est Monterland qui disait, il n'y a que les épiciers qui sont amis de tout le monde. Tu ne vas pas être l'ami de tout le monde, ce n'est pas ça dont je te parle. Je te parle qu'à l'intérieur de toi, le gardien de la loi, il va être viré. Tu vas avoir une paix, tu fais ce que tu veux. Et ce que tu veux, même si ce n'est pas toujours inspiré, si tu es passionné par moi, tu cherches, tu n'es pas coupable. Tu n'as pas à rendre compte à une justice. sauf d'un point de vue physique et réaliste. Si tu travailles, si tu emploies des gens, tu les payes. Non, bon, mais là, on n'est pas dans le spirituel. Et cette paix-là intérieure, cette paix de la conscience, c'est ça le commencement de la vie cachée intérieure. Donc, il y a un fruit. Il y a un fruit qui est là. Mais ce fruit-là, ben, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas le montrer. Parce que et là encore, Paul est inspiré. Il dit, ben, notre liberté, il y en a qui ne comprennent pas. Ben oui, je suis libre. Je suis libre. Je n'ai pas de compte à rendre devant une loi. Je n'ai pas de loi à respecter. Je n'ai pas une justice. Je suis appelé un jour à être moi la justice. Mmh. Et j'y crois. Je crois à cette folie, à ce scandale. Donc ici-bas, je suis libéré de toutes ces autorités, ces archées qui me disent « fais pas ci, fais pas ça ». Non. Un jour, c'est moi qui vais décider. Je crois à cette folie. Bon, donc j'ai la paix par rapport à ça. Bon.